Voilà, nous sommes au premier jour de notre séminaire intitulé « La Bible et la parole de Dieu ». Je crois que beaucoup peuvent se dire « Mais tiens, mais c'est normal, la Bible et la parole de Dieu, on le sait ». Mais le problème, c'est que les gens, quand je dis les gens, les chrétiens d'aujourd'hui le savent de moins en moins. Il ne suffit pas de dire que par la bouche, la Bible est la parole de Dieu. Notre façon de l'utiliser, notre façon de nous appuyer sur elle, c'est ça qui va montrer réellement que la Bible est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons des attaques de toutes sortes contre la Bible. Des attaques de toutes sortes pour qu'on en arrive à dire, mais non, il y a des choses relatives. La Bible, ce n'est pas absolument la parole de Dieu, c'est des écrits faits par des hommes. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont déstabilisés dans leur foi. Il y en a aussi à qui on a amené la logique de l'humain, de l'homme. Les pasteurs ont pris le dessus sur la Bible, les prophéties ont pris le dessus sur la Bible. Les manifestations du Saint-Esprit ont pris le dessus sur la Bible et les chrétiens ne se retrouvent plus. Ils s'accrochent beaucoup plus à ce que l'homme dit au lieu de s'accrocher à ce que la Bible dit. Si un homme dit quelque chose, il faut que ça ait son appui dans la Bible. Et les chrétiens sont perdus et ils suivent beaucoup plus ce que les hommes disent parce que ça fait du bien à la chair au lieu de suivre ce que la Bible dit avec simplicité, mais... Ce qui est sûr, c'est que c'est une parole puissante. L'apôtre Pierre appelle la parole de Dieu, la parole permanente et vivante de Dieu. Et donc nous allons avoir 3 jours pour dire que la Bible est la parole de Dieu. On ne va pas prouver cela, parce que seul le Saint-Esprit peut prouver cela dans le cœur de chacun. Mais on va donner des éléments qui montrent que la Bible est la parole de Dieu. Des éléments qui peuvent nous encourager à croire en cela et à tenir ferme malgré les contradictions. Ça fait partie du rôle du chrétien, résister devant les contradictions. C'est ce qui est écrit dans Tite 1.9. Donc l'ancien doit être prêché, enseigné dans la sainte doctrine, afin de réfuter aussi les contradicteurs. Donc il y a des gens qui viendront pour contredire la Bible, pour relativiser les choses, eh bien, il faut qu'on soit armé pour résister à ces personnes-là, pour résister aux fausses doctrines. Le chrétien doit aussi être armé. C'est pourquoi il y a ce thème-là, la Bible et la parole de Dieu, afin qu'on revienne à la Bible, qu'on ne nous parle pas de traditions ou autres, qu'on ne nous parle pas de nouveaux systèmes, de nouveaux apôtres. Non, il n'y a pas de nouveaux apôtres, il n'y a que des apôtres tels que la Bible explique. Et donc, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se sont infiltré dans le milieu chrétien, notamment évangélique, et le but de tout ça, c'est diminuer l'importance de la parole de Dieu pour donner l'importance à autre chose. Ainsi, le chrétien, on peut l'avoir facilement. Donc aujourd'hui, nous allons parler des Écritures. La Bible, c'est une collection de livres. Donc ce sont des Écritures, c'est les Écritures. Et quand on dit parole de Dieu, certains peuvent dire, mais tiens, la parole de Dieu, on est d'accord que c'est pur, c'est sans faute, il n'y a pas de problème. Mais la Bible, c'est quand même des écrits. Mais nous allons voir à travers la Bible que Dieu lui-même dit que ces écrits-là sont de lui. Donc, il faut suivre ces écrits. Nous allons comprendre cela, que les Écritures ont la même importance. Et c'est cela, c'est la parole de Dieu, les Écritures. Et nous avons notre verset de base pour ces 3 jours. Que nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 2.13, donc avant de commencer. 1 Thessaloniciens 2.13. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui qui agit en vous qui croyez. Amen. C'est pourquoi nous rendons grâce continuellement à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons prêchée, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça résume tout le séminaire. La parole, la Bible, c'est des livres écrits par les humains, mais c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, celui qui ne croit pas, ça n'aura pas d'effet sur lui, mais ça agira dans la personne qui croit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui peut mettre cette foi-là sur le fait que la parole de Dieu, la Bible, eh bien, c'est une réalité, ça vient de Dieu, et que nous devons croire pour expérimenter les belles choses que Dieu a réservées pour nous. Et il y a un verset aussi, un verset d'amour pour la parole qu'on va lire aussi chaque jour. On va lire chaque jour notre verset principal et un verset d'amour pour la parole, le psaume 119, verset 11. La Bible dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. « Je serre ta parole dans mon cœur. » Bien, mais quelle parole alors que toi tu vas serrer dans le cœur? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Comment tu vas la serrer dans le cœur si tu ne la connais pas? Mais aujourd'hui, nous allons voir que la Bible est vraiment la parole de Dieu et il faut la serrer dans son cœur. « Je serre ta parole dans mon cœur. » Nous commençons par parler de la parole de Dieu. La parole, c'est l'expression. Quand quelqu'un veut s'exprimer, c'est extérioriser ce qu'on pense, extérioriser ce que nous sommes, il peut utiliser ce qu'on appelle la parole, donc un langage parlé à travers la bouche. Il peut donner des ordres. Il peut dire d'où il vient. Et ce que nous devons retenir par rapport à la parole de Dieu, c'est le côté expression, extérioriser ce qui est dedans. C'est ça la parole de Dieu. Dieu s'est exprimé. Il a manifesté ce qu'il était. Et quand on dit expression, on peut s'exprimer de plusieurs manières. C'est ainsi que, pour montrer ce que c'est qu'un lion, quelqu'un peut décrire le lion en écrivant, il a telle taille, il a telles habitudes, voilà, il a une crinière, il rugit. Et cette description, à travers les écrits, à travers le langage humain parlé, peut aider quelqu'un à comprendre le jour où il sera en face du lion, quand il va faire, il va se remémorer ce qu'il avait lu sur le lion. Il va dire oui, c'est vrai, il a une crinière, c'est vrai, je vois ses grosses pattes, je vois ceci, ça doit être un lion. Donc, les écrits peuvent t'aider à voir la réalité. Donc, c'est ça l'expression. On exprime ce qui est. Et on peut aussi représenter un lion, exprimer ce que c'est qu'un lion en dessinant, en prenant une photo. C'est l'expression de ce que c'est qu'un lion. Le plus important dans l'expression, c'est quoi? C'est que les gens comprennent. C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière ce qui a été exprimé? C'est ça le but. Aujourd'hui, tu vas parler le chinois, personne ne comprend. Tu t'es exprimé, mais les gens n'ont pas compris. Donc le but, c'est de faire comprendre ce qui est caché, ce qui est. C'est ça la parole. On veut extérioriser ce qui est. Et donc le Seigneur, voulant parler à des humains, alors il était obligé de s'extérioriser d'une manière ou d'une autre pour que l'humain comprenne. Or, un des moyens que l'humain comprend, c'est la parole. C'est l'expression, parler. Il comprend cela. Alors Dieu a choisi de s'exprimer pour que l'homme le comprenne. Donc parler comme l'homme, en quelque sorte, C'est ainsi que quand il a parlé à Abraham, il a parlé dans la langue d'Abraham. Quand il a parlé à Enoch, il a parlé dans la langue d'Enoch. Donc il parlait leur langage pour qu'ils comprennent. Mais Dieu peut s'exprimer de plusieurs manières. Il peut s'exprimer par des visions, par des songes. Mais il a choisi la manière excellente de s'exprimer, c'est sa parole. Puisque sa parole, en réalité, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on comprenne. Quand on dit parole, on dit, c'est l'expression. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, puisqu'il s'exprime par la parole. Totalement, il s'extériorise par la parole. C'est pourquoi Jésus est la parole de Dieu. Parce qu'on peut, à travers Jésus, voir qui est Dieu réellement. Dieu s'est exprimé totalement par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et dans Jean 1:14, cette parole est venue en chair et on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. Donc on peut voir Dieu à travers son Fils Jésus. Jésus est sa parole. L'expression de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus lui a dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père. Mais le Père et moi, nous sommes un. Je suis son expression. Si tu peux bien voir qui est le Père, c'est à travers moi. Jésus est la parole de Dieu vivante. L'expression de Dieu vivante, c'est Jésus lui-même. Donc lorsqu'on regarde Jésus, on peut voir les perfections de Dieu. On peut voir le caractère de Dieu. On peut voir qui est Dieu à travers ses miracles. Donc il est l'expression de Dieu. C'est pourquoi quand on dit parole de Dieu, comprenons expression. Mais pour que Dieu nous s'exprime à nous, il a utilisé un langage que nous pouvons comprendre. Et c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on dit, c'est pourquoi on dit la parole. Il a utilisé la parole comme nous parlons, pour qu'on puisse le saisir, lui. Le Seigneur a préféré les choses ainsi, sa parole. Un langage parlé, ensuite, ce langage parlé, il a demandé à ce que ça soit écrit. Pourquoi? Parce que les écrits, c'est une transmission stable et sûre. Parce que les paroles portées par un homme peut oublier des choses. Un homme a un cerveau. Et donc, il fallait que la parole soit écrite pour que la transmission de ce qui est Dieu se fasse d'une manière stable et sûre. C'est pourquoi il fallait faire des écrits. Et nous voyons cette objectif-là dans Exode 17, 16. Nous prenons Exode 17, 16. La Bible dit, plutôt Exode 17, 14. Et on peut commencer par le 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc le Seigneur nous donne la raison des Écritures. Il dit, il faut écrire pour que le souvenir soit bien conservé. Parce que si on parle seulement des générations en générations, il peut y avoir des pertes. Mais les écrits, comme dit un proverbe d'ailleurs, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc Dieu a voulu que sa parole soit écrite, son expression soit écrite, afin que ça reste. Les humains de génération en génération puissent en profiter. Donc le Seigneur a toujours voulu les Écritures. C'est important de comprendre ça. Le Seigneur a décidé qu'il y ait des écrits. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire, critiquer, dire que la Bible, c'est des écrits faits par des hommes. Mais il faut, si déjà tu comprends que le Seigneur lui a voulu qu'il y ait des écrits, alors où sont ces écrits-là? Ces écrits-là, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc le Seigneur a décidé qu'il y ait des écrits. Nous nous souvenons aussi dans Exode 32, on peut lire Exode 32. Exode 32. La Bible dit ceci, au verset 15 à 16, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Donc nous voyons que Dieu aussi lui-même a écrit. Donc le Seigneur a décidé que sa parole soit transmise par écrit. De sorte que les écritures, c'est la parole de Dieu. Puisque c'est décidé ainsi par le Seigneur, au point où même lui-même a écrit. Parce que les écrits, comme on dit, ça reste, c'est stable. On peut vérifier, on peut maintenir les choses beaucoup plus durablement par écrit que par le langage oral, la tradition orale. Au début, le Seigneur parlait à Abraham, il a parlé à Jacob, et quand Moïse est venu avec la loi. Donc c'est la grande différence, c'est qu'avec Jacob et Abraham, c'était des alliances qu'il traitait avec eux. Il n'y avait pas une liste de prescriptions qui décrivaient la nature de Dieu, qui décrivaient la volonté de Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit que l'expression, c'est dire ce que l'origine est. Donc quand quelqu'un s'exprime, il peut donner, il peut dire ses volontés, je veux ceci, je veux cela. Il peut donner des instructions. Il peut aussi, à travers son expression, montrer qu'est-ce qu'il est. Il peut aussi montrer ses capacités à travers son expression. Donc lorsque quelqu'un donne un ordre, on peut comprendre c'est qui. Si il donne un ordre au premier ministre, on comprend que c'est le président. Donc on peut comprendre qui est une personne à travers ses paroles, à travers son expression. Lorsque quelqu'un invente un appareil nouveau, on peut comprendre l'intelligence de cette personne-là, dire réellement, cette personne est très intelligente. Donc, il s'est exprimé en inventant cet appareil nouveau. Donc, cette personne est forte en technologie avancée. Donc, on peut comprendre quelqu'un à travers son expression. Et le Seigneur s'est exprimé par la parole. Il a parlé, il a prononcé les choses pour que les humains entendent. Ensuite, pour la transmission, il a voulu que ça soit écrit à cause de la stabilité et de la sûreté de la transmission. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les Écritures. Et les Écritures, c'est la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous venons de lire quelques versets où il y a le Seigneur qui donne une instruction à Moïse d'écrire, et un autre verset, c'est lui-même qui écrit. Donc les écrits ont commencé déjà avec Moïse, donc avec les Juifs. Les écrits, l'histoire de Dieu a commencé avec les Juifs. Nous connaissons, il s'est révélé à leurs ancêtres, les patriarches, Abraham, Noé, Jacob. Ensuite est venu le temps de Moïse. Moïse est un pilier dans tout ce qui concerne Dieu, parce qu'avec Moïse, c'est là que Dieu vraiment s'exprime, de long en large. Moïse et Jésus, c'est les deux que le Seigneur a utilisés pour donner sa parole. Après, nous les autres, nous ne faisons que redire ce que les deux ont dit. Et donc Moïse retrace les choses, plutôt exprime, écrit ce que Dieu lui a demandé d'écrire. Et les écrits de Moïse, ainsi que les écrits des prophètes qui ont suivi Moïse, ainsi que les écrits historiques des événements qui décrivent la relation entre Dieu et son peuple, et des écrits de louanges, les psaumes et autres poétiques, eh bien, ont été rassemblés dans un volume qu'on appelle, nous les chrétiens, le Premier Testament. Ancien, ça ne veut pas dire c'est fini. Ancien, ça veut dire tout simplement le Premier Testament. Et nous avons le Deuxième Testament, que nous appelons aussi le Nouveau Testament. Mais en réalité, nous ne devions pas dire ancien et nouveau. On doit dire premier et deuxième, premier et nouveau. Donc ancien, c'est dans le sens que c'est le premier. Et Le Nouveau Testament, c'est quoi? Eh bien, c'est les écrits concernant la vie de Jésus et les paroles de Jésus. Il y a les évangiles qui retracent la vie de Jésus et qui rapportent ses paroles. Ensuite, il y a les actes des apôtres qui montrent la vie de la première église. On voit le parallèle hein, avec les écrits historiques de l'Ancien Testament qui rapportaient le lien, donc les événements qui manifestaient le lien entre le Seigneur et son peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est les actes des apôtres, c'est les événements qui manifestaient la relation entre le Seigneur et ses disciples. Ensuite, il y a les lettres qui sont des enseignements pour expliquer, pour appuyer, pour soutenir ce qui a été déjà dit dans les évangiles par le Seigneur Jésus. Et nous avons après les écrits, l'Apocalypse qui est un livre prophétique qui montre les choses à venir, qui nous annonce les choses à venir. Et comme il y a aussi des écrits prophétiques dans l'Ancien Testament qui annoncent les choses à venir et qui rappellent aussi les commandements du Seigneur. Voilà ce qu'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la Bible. Donc nous sommes obligés d'expliquer comment ça a été constitué, afin qu'en tant que chrétien, tu saches que tu ne te trompes pas. La Bible est vraiment la parole de Dieu. C'est important que toi-même, tu sois convaincu. Et je sais que beaucoup sont faibles dans l'évangélisation ou dans leur vie chrétienne parce qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment très convaincus. Ils se sentent obligés d'être convaincus parce que si tu oses dire dans le milieu chrétien que tu n'es pas très convaincu, les gens vont rigoler sur toi ou bien vont te considérer comme un petit chrétien. Alors les gens, ils préfèrent garder leurs doutes et ne pas le dire pour ne pas être déprécié par les autres. Mais il faut que tu saches que la Bible est la parole de Dieu. Et nous allons parler de la constitution de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, comment l'Ancien Testament a été constitué? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, il y a les cinq premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était la volonté de Dieu. On a lu quand Dieu dit à Moïse d'écrire et après il lui a demandé d'écrire les autres. Eh bien, c'était la volonté de Dieu afin que sa parole soit transmise, afin que sa relation avec son peuple soit connue. Et dans sa relation, il y a aussi encore sa parole, il y a sa volonté qui s'exprime aussi. Et après les cinq premiers livres de Moïse, il y a les livres historiques qui continuent l'histoire de la relation du peuple de Dieu avec lui, après Moïse. Ensuite, il y a les livres prophétiques ou poétiques, selon l'ordre, les livres poétiques qui montrent les louanges au Seigneur, la relation intime que peut avoir quelqu'un avec Dieu. Ça, c'est les livres poétiques. Ensuite, il y a les livres historiques et les livres prophétiques qui sont des rappels à l'ordre des prophètes et des prophéties sur les nations et sur l'avenir de l'humanité. Alors, comment tout ça a été constitué? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que ces écrits-là qui existent. Donc, vous avez déjà entendu parler d'autres écrits, d'autres livres, à part ceux-là, et on appelle entre autres ces livres-là des livres apocryphes ou deutérocanoniques, donc deuxième canon. Donc, nous allons expliquer comment tout ça a été fait. Pourquoi nous n'avons que 39 livres dans ce qu'on appelle le Premier Testament, alors qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit à cette époque-là. Pourquoi on n'a retenu que les 39? Qui a retenu les 39? Il y a eu une convention, une réunion de sages juifs vers l'an 70 après Jésus-Christ, à Jamnia, en Palestine. Ils se sont réunis et ils ont... il devait faire le canon juif. Le canon, ça veut dire la norme, c'est-à-dire la liste des livres qu'ils allaient considérer comme étant totalement inspirés de Dieu. Donc ils allaient prier et se laisser diriger par Dieu pour décider de cette liste de livres. Et ces sages-là se sont réunis et ils ont reçu dans leur cœur de retenir que les 39 que nous avons dans le Premier Testament comme étant les livres totalement inspirés par Dieu, sans faille, sans erreur quelconque. C'est les 39 qu'ils ont retenus. Et nous les chrétiens, puisque Jésus dit le salut vient des Juifs, donc ça voudrait dire que Dieu a utilisé ces sages-là pour retenir ces 39, puisque c'est ça que le peuple juif a accepté comme étant le canon. Ensuite, il y a eu les manigances du catholicisme qui est venu rajouter ce qu'on appelle les livres apocryphes ou deutéro-canoniques. Deutéro, ça veut dire deuxième. Ils ont fait un deuxième canon. Donc, c'est eux qui l'ont fait, mais ce n'est pas le peuple juif qui l'a fait. Donc, c'est pourquoi si vous prenez la Bible hébraïque, vous n'allez trouver que les 39 qui sont dans nos Bibles. Vous n'allez pas trouver les livres apocryphes ajoutés par la hiérarchie catholique. C'est comme ça que le premier canon a été constitué, c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Et puisque Jésus n'a pas contesté les écrits juifs, d'ailleurs Jésus, puisque nous, en tant que chrétiens, nous suivons qui ? Nous suivons Jésus. Mais Jésus, lui, ben, il a utilisé la parole. Quand il était vivant, quand le diable l'a tenté, il a vaincu le diable par la parole. Mais qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, je reçois en vision que Dieu dit ceci. Non, il disait, il est écrit. Jésus ne répondait pas au diable, il dit, je prophétise diable. Non, il disait au diable, il est écrit. Alors donc, toi, si tu crois que tu vas vaincre le diable par des prophéties, tu perds ton temps. Tu vas vaincre le diable par, il est écrit, comme ton maître Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui sont à la recherche d'un pasteur qui va leur dire, comment dire, les sorciers de votre famille sont vaincus. Non, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est écrit. Jésus a dit au diable, il est écrit. Et le diable a fini par fuir. Donc, puisque Jésus a utilisé les écrits juifs, donc ça nous autorise, nous les chrétiens, à dire, c'est des écrits inspirés. Deuxièmement, les apôtres, quand ils sont venus, les apôtres, il n'y avait pas encore à l'époque le Nouveau Testament qu'on connaît là. Mais ils utilisaient les écrits juifs pour prouver que Jésus-Christ était le Messie. Alors, puisque les apôtres ont utilisé ces écrits-là du Premier Testament pour prouver que Jésus-Christ était le Messie, afin que le monde entier croit en Jésus, donc nous considérons que ce sont des écrits venus de Dieu lui-même. Donc c'est comme ça que nous aujourd'hui, nous pouvons dire l'Ancien Testament, c'est de Dieu, puisque c'est clair, Jésus nous dit le salut vient des Juifs. Combien de fois Jésus parle des Écritures ? Dans Luc 24, il dit, mais il leur montra les Écritures et comment on parlait de lui dans les Écritures. Si Jésus dit que les Écritures, ça veut dire à l'époque quand Jésus parlait, il y avait que les écrits de l'Ancien Testament. Si Jésus dit que les Écritures parlent de lui, amen, nous suivons Jésus, nous allons suivre là où on parle de lui. Donc l'Ancien Testament, le Premier Testament, parle de Jésus. C'est pourquoi nous considérons que c'est la parole de Dieu. Le salut vient des Juifs, donc ce que les Juifs avaient retenu comme parole venant de Dieu, nous aussi nous acceptons cela comme étant la parole de Dieu. Les Écritures acceptées comme étant le canon, la norme, ce qu'on doit considérer comme infaillible. C'est ça ces Écritures-là. Comment le Nouveau Testament a été constitué ? Le Nouveau Testament a été constitué selon un critère principal qu'on appelle le critère d'apostolité. Donc il fallait, pour que un livre soit retenu comme étant totalement inspiré, il fallait que ça soit écrit par un apôtre. Donc ça, c'était le critère principal. Maintenant, l'évangile de Luc et de Marc ont été acceptés parce que c'est des gens qui ont vécu très proches, comme dans une même famille, que l'apôtre Pierre pour Marc, l'apôtre Pierre, Paul et tous les autres pour Luc. Luc a connu tous ces autres-là parce qu'il a fait des recherches auprès des témoins oculaires. C'est ce que lui-même il explique. Il dit, j'ai fait des recherches auprès des témoins oculaires. Donc, il a côtoyé Pierre, Paul et les autres, même Marie, pour connaître ce qui s'était passé. Ce qui fait que l'évangile de Luc aussi a été retenu dans la liste du canon du Nouveau Testament. Donc tout ça s'est fait par étape. Tout ça s'est fait par étape. Et à un moment donné, les églises ont reconnu que tous les livres que nous avons là, jusqu'à Apocalypse, c'était le seul qu'on devait considérer comme étant totalement inspiré et sans faille. Le Saint-Esprit a conduit cette reconnaissance. Parce que quelqu'un va toujours dire, mais oui, mais qui sont-ils pour que ce soit eux qui reconnaissent? Pourquoi pas moi? Mais moi aussi, je vais te dire, qui es-tu aussi pour que ce soit toi? Donc, ça va être sans fin. Donc, chacun va dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, c'est le désordre dans la ville, quoi. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Sinon, chacun va dire, mais pourquoi? Comme c'était le cas du temps de Moïse. Pourquoi seulement Dieu va parler à Moïse? Mais Dieu choisit des gens. Donc, si tu es jaloux, ben, il y en a qui ont été enterrés. Il y a d'autres qui ont été qui ont subi de la lèpre parce qu'ils ont voulu, même la propre sœur de Moïse a voulu contester, mais pourquoi Moïse, pourquoi pas moi? Ça, c'est Dieu qui décide. Maintenant, nous voyons que la décision de Dieu demeure. Moïse, on le lit jusqu'à aujourd'hui, mais les gens là, les jeunesses, qui ont voulu s'opposer à Moïse, Marie, on ne sait même pas ce qu'elle a écrit, quoi. Donc, la sœur de Moïse qui a voulu s'opposer à Moïse. Donc, Moïse, on continue à le lire. Donc, ce qui est de Dieu demeure. Le Nouveau Testament tel que nous l'avons, il demeure. Malgré tous les combats que nous connaissons, il demeure toujours. Donc, c'est comme ça que le Nouveau Testament a été constitué. Mais certains vont vous dire, mais oui, mais il y a aussi l'évangile de Thomas. Mais pourquoi on n'a pas retenu ça? Eh bien, au moment où on retenait les livres, il n'y avait pas l'évangile de Thomas. Après, c'est venu plus tard. Eh bien, c'est trop tard. Donc, ce qui a été retenu, le Saint-Esprit a conduit qu'on retienne cela. Donc, on n'a pas retenu tous les livres. Maintenant, retenu un certain nombre, reconnu par les églises. Et comme je vous ai dit, ça s'est fait petit à petit. Donc, les églises, chacune lisait pratiquement les mêmes lettres. Ensuite, les chrétiens ont décidé de les rassembler pour former le Nouveau Testament, le Deuxième Testament. Et nous croyons, puisque le critère d'apostolité a été respecté, nous croyons que c'est vraiment du Seigneur. Je vais donner un autre élément par rapport à l'Ancien Testament, pour qu'après on soit sûr de la transmission. Vous savez, les copistes de l'Ancien Testament, parce que les gens vont vous dire aujourd'hui, mais oui, mais vous n'avez pas les originaux. Oui, mais moi, je n'ai pas les originaux ici, parce que les originaux sont en hébreu et en grec. Je ne sais ni lire l'hébreu ni le grec. Mais il y a des gens qui ont traduit, et ces originaux-là, on les appelle les manuscrits témoins. Ça existe dans certains musées du monde. Il y en a en Russie, à Leningrad, le codex de Leningrad. Il y en a au British Museum, il y en a aussi en Égypte, il y en a aussi au Vatican. Donc il y a des manuscrits témoins, il y en a beaucoup, qu'on peut, si quelqu'un veut apprendre l'hébreu et le grec, faire des recherches, tu as de la matière. Donc tu pourras vérifier la fiabilité de la traduction que nous avons aujourd'hui, et elle est fiable. Et donc il y a des gens qui peuvent toujours parler, mais nous savons une chose, c'est que les copistes, les gens qui copiaient l'Ancien Testament, vous savez, ils étaient tellement rigoureux, les copistes juifs, que non seulement ils recopiaient, mais à la fin, ils comptaient le nombre de lettres de l'original. Par exemple, la lettre A, il y en a combien dans l'original? Il faut qu'il y ait le même nombre de lettres A dans la copie. La lettre B, dans l'original, il y en a combien? Il faut qu'il y ait le même nombre. Ils avaient des principes de rigueur qui, aujourd'hui, nous donnent la paix sur la fiabilité de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a pas vécu la même rigueur, mais cependant, nous avons suffisamment de manuscrits témoins qui sont, je vous ai dit, les manuscrits témoins, c'est les premiers écrits qui ont été copiés. Donc, c'est les plus vieux écrits qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on appelle les manuscrits témoins. C'est les plus vieux écrits. Et quand vous les rassemblez, quelle que soit leur source, elles sont pratiquement les mêmes. Et d'ailleurs, leur pluralité, leur grand nombre nous aide à corriger parfois des erreurs de copistes qui se seraient insérées. Et donc, ce qui fait que finalement, on a des manuscrits. Quand on les rassemble, on a une somme qui est fiable parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, quand on dit que Jules César s'est battu contre la Gaule, tout ça, vous savez qu'il y a, moins de preuves de cela que ce que nous lisons sur la Bible. Nous avons beaucoup plus de manuscrits vieux qui parlent de la Bible que ce que tous nous connaissons sur Jules César. Donc quand les gens contestent la Bible, ils devraient commencer par contester l'existence de Jules César. Parce qu'il y a moins de preuves sur l'existence de Jules César que les manuscrits sur la Bible. Il y en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent vous mentir pour vous dire vous n'avez pas examiné les choses scientifiquement, vous êtes dans votre foi. Bien aimé, nous avons des scientifiques chrétiens qui ont fait des recherches très, très approfondies. Et si quelqu'un d'entre nous veut aller loin, il va avoir de la matière. Ils ont fait des recherches très approfondies. Donc, ce que je vous dis est vrai. Il y a moins de preuves que Jules César a existé, que Jésus a existé, que ce que nous écrivons sur Paul a existé. On a beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus de manuscrits témoins sur l'Église primitive, sur la réalité de Jésus que sur la réalité de Jules César. Mais aujourd'hui, qui peut contester l'existence de Jules César? Tout le monde considère cela comme étant vrai. Mais pourtant, il y a très peu de preuves. Et je peux vous donner un exemple de pourcentage. On doit avoir 9 fois plus de preuves sur les choses de la Bible que sur l'existence de César. Mais il y a toujours des gens qui veulent sortir pour dire la Bible, eh bien, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il y a une fiabilité scientifique qui a été prouvée. Mais ça sera le sujet vraiment de demain. Demain, on parlera des attaques contre la Bible. Et je vais maintenant donner quelques raisons pour le chrétien et pour le païen qui est humble, parce que les choses de Dieu, il faut de l'humilité. Pour le chrétien et pour le païen qui est humble, d'être sûr que la Bible, c'est la parole de Dieu. Premièrement, les preuves archéologiques. La Bible parle des peuples, parle des villes, parle des scènes, parle des humains. Et il y a eu des fouilles archéologiques qui ont prouvé l'existence de ces peuples. Je vais vous donner un exemple de peuple, les Hittites. La Bible parle des Hittites. Et longtemps, les faux scientifiques ont critiqué la Bible en disant, mais tiens, il n'y a que la Bible qui parle des Hittites. On a vérifié les écrits des autres historiens, on ne voit nulle part qu'on parle des Hittites. Donc la Bible a un problème, puisqu'elle est la seule à parler des Hittites. Eh bien, il y a eu des fouilles archéologiques. Là où la Bible dit qu'il y a eu des Hittites, mais les fouilles archéologiques ont été faites. On a retrouvé la ville des Hittites. On a retrouvé les symboles des Hittites et les gens ont été confondus, ces faux scientifiques-là. Mais ça, on n'en parle pas à la télévision quand ces gens-là sont confondus. On va seulement parler quand eux, ils attaquent. Mais quand ils sont confondus par les scientifiques chrétiens, ben, on n'en parle pas. Ça reste comme ça. Et nous, on reste dans une impression fausse, alors qu'il y a beaucoup plus de preuves archéologiques par rapport à la Bible. Vous savez que pendant longtemps, ils ont les faux scientifiques, j'appelle les faux scientifiques, c'est des malhonnêtes, eh bien, ils ont considéré que David n'a pas existé plutôt. Pendant un temps, bon, nous, on n'est pas au courant de tout ça parce qu'on est dans notre milieu chrétien. Jésus est vivant, David a existé, l'homme selon le corps de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons savoir que dans les milieux intellectuels où il y a aussi des chrétiens, eh bien, il y a eu ce problème-là pendant longtemps. Il n'y a pas de preuve de l'existence de David. Et surtout, ils veulent utiliser ça pour nuire à Israël, pour dire, mais tiens, ils réclament le trône de David, mais David n'a jamais existé. Mais des fouilles ont été faites, on a retrouvé la cité de David. On a retrouvé le palais de David et les gens, leur bouche a été cadenassée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les preuves archéologiques sont là pour montrer ce que la Bible dit est vrai. Il y y a l'épreuve archéologique. On ne va pas s'allonger là-dessus. Il y a les manuscrits de Qumran qui ont été découverts en 1948 en Irak. Hein. Donc, des vieux manuscrits vieux de 700 ans avant Jésus-Christ sur Ésaïe. On a comparé cet Ésaïe-là avec notre Ésaïe, exactement la même chose. Les gens, leur bouche a été cadenassée. Mais on n'en parle pas. J'allais dire leur bec, mais bon, c'est pas bon. C'est leur bouche qui a été cadenassée, mais on n'en parle pas. Nous continuons. Il y a l'accomplissement des prophéties. Mais la Bible est remplie de prophéties. Donc, je prends un exemple. Michée 5, 1 à 2. Nous allons lire Michée 5, 1 à 2. La Bible dit dans Michée 5, 1 à 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Voilà ce qui est écrit. De Bethléem sortira un homme qui dominera sur Israël, ses activités remontent au jour de l'éternité. Donc on voit clairement la naissance de Jésus qui est prophétisé, où c'est à Bethléem. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Il y a, dans Ésaïe 7, 14, on dit que la Vierge va enfanter. La naissance de Jésus, déjà montrée dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9, 5 à 6, parle d'un enfant qui est né. On l'appellera Père éternel, conseiller admirable, Dieu puissant. Qui est-ce qu'on appelle Dieu aujourd'hui, qui est humain, qui est venu des Juifs? C'est Jésus-Christ. Donc il y a plein de prophéties. Et ça, c'est des prophéties sur Jésus. Mais il y a des prophéties sur les nations qui ont été dites. Nous connaissons la fameuse prophétie de Daniel sur la statue avec la tête en or qui relatait la succession des empires. Premièrement, c'était l'empire de Nebuchadnezzar. Ensuite, c'était les Mèdes et les Perses. Et après, c'était les Grecs. Et après, c'était l'Empire romain qui s'est éclaté par la suite et dont l'Europe constitue la descendante aujourd'hui. Tout ça a été donné par Daniel, expliqué par Daniel. Nous voyons la succession de cela aujourd'hui. Les prophéties sur les pestes, les maladies. J'ai suivi hier à la télé, il y a tous les 10 mois, il y a un nouveau microbe qui sort. Tous les 10 mois. Et on n'est pas au courant de ça. Mais tout ça a été prophétisé dans la Bible. Les catastrophes naturelles. La Bible dit que dans Apocalypse 18, les marchands de corps d'hommes. Parce que quelqu'un va dire, mais ça existait déjà, les marchands d'esclaves. Non, là on ne parle pas des marchands d'hommes. Les marchands de corps d'hommes. Aujourd'hui, nous connaissons le commerce des reins, le commerce des organes humains. Mais la Bible a déjà parlé de ça dans Apocalypse 18. Des marchands de corps d'hommes. Il y a des cheveux aussi qui sont vendus. Les cheveux des femmes indiennes. C'est vendu aussi. Donc, mais tout ça, la Bible en parlait. Aujourd'hui, les gens mettent mèche, tout ça. Mais c'est la Bible avait expliqué ça déjà, depuis longtemps. Alléluia. La Bible connaît tout. Marchand de corps d'homme. Et il y a plein d'autres prophéties qui se réalisent. L'histoire, nous qui vivons à notre époque, l'histoire de la marque de la bête. Apocalypse 13 nous dit qu'on ne pourrait acheter ni vendre que par cette marque-là. Nous qui vivons à notre époque, nous voyons comment tout est réduit. Aujourd'hui, tu peux avoir une carte, un code qui permet que tu accèdes et à la CEDIC, aux ACEDIC et à la CAF et à la Sécurité sociale, le même code. Aujourd'hui, tout se rassemble. On a des codes, des cartes bancaires qui te permettent d'acheter, qui te permettent de passer les péages, qui te permettent de voyager. Donc aujourd'hui, tout se rassemble. Il n'y a plus de billets d'avion. Tu amènes ton passeport et tu passes. Donc plus tard, tout va se rassembler dans une seule carte. Et finalement, pour protéger cette carte, eh bien, on dira, ben, il faut savoir que ces cartes-là, elles sont grandes, mais ce n'est pas leur grandeur qui agit. C'est une petite partie qu'on appelle la puce qui agit. Et cette petite partie, avec les nanotechnologies, on arrive à la réduire à moins que la taille d'un grain de riz. Donc on pourra ensuite mettre cette puce dans la main ou au front. Donc on voit, nous, aujourd'hui, ce que dit la Bible, se réaliser. On le voit. On le voit. Avec les codes barres qui ont tous les 666, on voit cela, alors que la Bible a prédit cela. Donc aujourd'hui, un homme humble, lorsqu'il lit la Bible, il peut réellement se dire, tiens, c'est vraiment la parole de Dieu, parce que ce qu'elle dit, les prophéties qu'elle a données, eh bien, elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Il y a, bien aimé, l'unité de la Bible. Vous savez que la Bible a été écrite dans un étalage de 1600 ans. 1600 ans, les écrits de la Bible. D'écart entre le premier écrivain et le dernier écrivain. 1600 ans. Des auteurs différents. D'ailleurs, les noms le disent. Hein. Habakkuk, Sophonie, Jean, Luc. Des auteurs différents. Mais lorsqu'on lit chaque livre, on voit le même thème. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, mais tous ces livres-là parlent de moi. On voit une unité parfaite alors que c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Cette unité parfaite alors que c'est des écrivains différents montre qu'il y a un même esprit qui les a conduits, l'Esprit de Dieu. Lisez le livre de Daniel, lisez l'Apocalypse, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pratiquement la même chose. Mais quelqu'un va dire, mais oui, mais peut-être Jean a lu le livre de Daniel, oui, mais Daniel ne parle pas de la marque de la bête de 666. Hein. Donc, si Jean avait lu le livre de Daniel, il n'aurait pas parlé de 666. Donc, on voit que Jean rajoute des choses que Daniel n'avait pas données. Vous savez, il y a encore quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans le livre de Daniel, on dit à Daniel quoi ? De sceller la prophétie. Les gens ne peuvent pas la comprendre. Mais à Jean, on dit de déceler la prophétie. Donc, on voit la différence. Donc, Jean... À lui, on demande d'expliquer. Donc, avec l'Apocalypse de Jean, les gens pourront comprendre le livre de Daniel. Et c'est ce qui se passe. Quelle unité ! Quelle unité ! Lorsque on voit Genèse, les causes du mal, la solution pour le mal, et nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que mais c'est la même chose. Finalement, tout est lié à la Genèse. Quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que tout le problème, c'est lié au péché d'Adam. Un péché est entré par un homme. Le péché plutôt est entré par un homme. Et le péché est vaincu par un autre homme. Le second homme, Jésus-Christ. On voit une unité, une suite logique lorsqu'on lit la Bible. Quel que soit le livre, on se sent dans le même livre alors que c'est des auteurs différents. Cette unité-là, c'est quelque chose d'important qui nous prouve que la Bible a été inspirée par une seule personne. Donc si on reconnaît l'évangile des gens comme étant inspiré par Dieu, nous reconnaissons aussi tous les autres comme étant inspirés par Dieu parce que c'est la même personne dont il s'agit, c'est de la même personne dont il s'agit et c'est le même thème, c'est le salut de l'humanité par Dieu lui-même. C'est ça le thème de la Bible. Et il y a une cohérence extraordinaire. Un autre point qui doit nous aider à comprendre que la Bible est la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même dit que c'est sa parole. Lorsqu'on lit la Bible, les écrivains de la Bible eux-mêmes disent que c'est la parole de Dieu. Comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 2:13, notre verset de base. Il dit que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Quand Moïse a rapporté aux enfants d'Israël les paroles, il a dit « C'est les paroles de Dieu ». Donc c'est un écrit, leurs écrits eux-mêmes, ils qualifient cela comme étant la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset de 1 Jean 5 qui m'a souvent fait du bien. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, 5 à 6, il dit « Celui qui nous écoute est de Dieu, Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. Donc, il était sûr que ce que lui disait, c'était de Dieu. Donc, si quelqu'un ne l'écoutait pas, c'est cette personne-là qui se trompe. Donc, les gens qui ont parlé dans la Bible, qui ont écrit, étaient conscients et ils l'ont affirmé que ce qu'ils disaient, c'était de la part de Dieu. Et l'apôtre Pierre le dit encore. Personne n'a prophétisé par une volonté humaine, mais c'est de la part de Dieu que les gens ont prophétisé. Donc, Pierre le dit encore. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils le disent. Et un point très important, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus lui-même a cité les Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus a dit à ses apôtres, enseignez aux gens ce que je vous ai prescrit. Donc, ça supposait par la suite des écrits qui allaient faciliter cet enseignement et rendre cet enseignement stable. Ça supposait cela. Donc, puisque Jésus lui-même a utilisé, il est écrit, forcément, nous reconnaissons par là que la Bible est la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs éléments. Et je vais finir par un élément très important, c'est que la Bible est le seul livre qui répond à toutes les questions de l'homme. Tu veux savoir d'où vient l'homme? On te dit qu'il a été créé par la poussière et Dieu a soufflé. Il est devenu une créature vivante. Il y avait Adam et Ève avant. La Bible le dit sans crainte. Hein. Ce n'est pas comme les suppositions du Big Bang des scientifiques. Oh, c'est le Big Bang. Et puis, ils vont se contredire après Einstein qui disait que l'univers est fermé et courbe. Eh bien, finalement, il a reconnu qu'il s'est trompé. L'univers est en expansion. Donc, les scientifiques se trompent et ça change tout le temps. Alors que la Bible reste pareille, stable. Mais d'où vient la terre? La terre a été créée par Dieu. Voilà. L'explication est donnée. Extraterrestres, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que les anges. Donc ceux qui voient les extraterrestres, c'est des démons en réalité. Ils ont mis des sondes et des sondes pour aller chercher les sondes. C'est des appareils qui vont en espace, à l'espace pour faire des navigations là-bas. Ben, ils ont mis même... Ils ont enregistré des chansons, peut-être des Beatles et puis d'autres choses. Ils ont mis la formule énergie égale à MC carré. Alors, ils ont envoyé une sonde pour aller chercher les extraterrestres. Jusqu'à aujourd'hui, on attend la réponse. Il n'y en a pas. Ils ont fait des radiotélescopes. Bien aimé, quand vous voyez la dimension de ces radiotélescopes, ils auraient mieux fait de construire des hôpitaux avec cet argent-là. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, les radiotélescopes n'arrivent même pas à trouver une mouche extraterrestre. Bien aimé. On attend toujours, il n'y en a pas. Mais la Bible n'en parle pas, vous n'allez pas en trouver. Au lieu de dépenser pour ça, dépensez pour autre chose. La Bible est claire. Tu veux comprendre? Ah, mais où sont partis les dinosaures? Le déluge. Il y a eu le déluge, ça a tué les gens. Ah, toutes les explications sont là. D'où vient que l'homme est mauvais? Le péché d'Adam. La Bible répond à tout. Après la mort, on va où? Soit en enfer, soit au ciel. Tout est expliqué. La maladie, ça vient d'où? Le péché. Voilà. Mais quelle est la solution? Par le maître-sur de Jésus. La Bible explique tout. Donc, tout ce que tu veux comme explication sur ton problème, c'est dans la Bible. Pourquoi je suis dans la dépression? Tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu finis par craquer et c'est ce qu'on appelle la dépression. Voilà. La Bible explique tout. Et c'est étonnant, hein? C'est étonnant. Parce que le psychiatre lui-même, il a besoin d'un psychiatre encore. Mais quand tu es sauvé par la parole de Dieu, tu restes, tu demeures. Toutes les questions que peuvent se poser les hommes, ils ont les réponses dans la Bible. Et ça, c'est extraordinaire. Les réponses sont dans la Bible. La Bible, avec le livre de Salomon, Ecclésiaste, le mouvement des eaux, le mouvement de ce que nous on appelle les courants marins, c'est décrit dans l'Ecclésiaste. C'est expliqué. Comment le vent tourne sur toute la terre, c'est expliqué dans l'Ecclésiaste. Tout ce qui est scientifique est déjà expliqué dans la Bible. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça explique ce que Dieu a voulu en créant, qui est Dieu, qui est l'homme. Tout est expliqué dans la Bible. Et quand tu veux la solution pour tout, c'est la Bible. C'est pourquoi un chrétien doit attaché beaucoup d'importance à la Bible. Beaucoup ne veulent plus attacher d'importance à la Bible. Ils pensent que c'est juste pour nous dire comment faire pour aller au ciel. Mais la Bible est là pour nous donner les principes de bonheur de chaque jour. Je dis bien la Bible, hein? Je ne dis pas les conseils, parce qu'aujourd'hui il y a des mouvements chrétiens qui utilisent la psychologie chrétienne et ça n'existe pas. Donc il y a la Bible qui peut tout nous expliquer. Il y a des gens qui viennent, on dit « Amen, on te comprend, frère, tu as connu une enfance difficile, c'est pourquoi tu es comme ça, Dieu va te libérer petit à petit, comprenez-le. » La Bible dit « Non, tu as péché comme tous les hommes. » D'accord, tu as connu une enfance difficile, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Demande pardon pour tes propres péchés et tu seras libre. Ma main n'est pas courte pour agir, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Ah bon, il y a des gens qui sont bercés comme ça 30 ans, 40 ans, ils n'en sortent pas. Oh, comprends-le, il a eu une enfance, comment dire, difficile. Et qui a eu une enfance facile? Qui a eu une enfance facile? Tous les bébés, quand ils veulent marcher, ils se cognent ils tombent. Quand ils veulent s'asseoir, le parent n'est pas là. C'est la chute. Ils se cognent, ils pleurent. Qui a eu une enfance facile? Nous tous, on a eu le rhume. À 5 ans, le nez bouché, tu n'arrives plus à respirer. Donc, la Bible te dit, non, le problème, c'est toi-même. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Et aujourd'hui, les chrétiens veulent monter des systèmes. On donne toutes sortes de noms à ça, relations d'aide ou autre chose, pour calmer les gens. Reste dans ton péché. Dieu te comprend. Tu as trop souffert. Non. Une vraie relation d'aide, c'est dire à l'autre, tu es dans le péché. Demande pardon et pardonne aux autres et la délivrance est sur toi. J'ai écouté la prédication d'un pasteur qui expliquait comment il faut vivre avec un mari. J'ai dit, c'est pas possible. Est-ce que Paul a passé son temps à expliquer tout ça? Paul a dit, tu aimeras ton prochain. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme? Ah bon, aime ton mari comme toi-même. C'est la solution. Alors, on explique, ce pasteur-là explique, il faut faire ceci, il faut faire cela. D'ailleurs, les gens, c'est les païens qui rigolaient de ça. Ils ont même mis moins de 18 ans n'est pas écouté, quoi. C'est les païens qui transmettent ça, ils disent moins de 18 ans n'est pas écouté. C'était des bêtises graves. Et on trouve cela aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. En ce qui concerne la cuisine, la tenue d'un mari ou d'une femme, les païens en parlent suffisamment. Celui qui veut savoir cuisiner, il y a beaucoup de livres. Elle s'appelle comment la femme qui parle à la télé là. Allez, va écouter cette émission-là. Tu vas savoir comment cuisiner. N'attends pas que moi je t'explique comment mettre le sel ou bien quoi que ce soit, bien aimé. On a beaucoup plus de plus gros chats à fouetter. Donc les petits trucs là, les païens sont là, ils expliquent tout cela à l'école. Comment les microbes agissent. Va écouter là-bas. Nous ici on dit c'est le mal, demande pardon, pardonne aux autres, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Voilà. Laissons les morts enterrer leurs morts. Il y a des choses que les païens expliquent déjà, c'est lui qui veut savoir qu'il lise les livres des païens. Mais nous allons nous concentrer sur des choses très très importantes, les choses de la vie, la puissance du ciel, parce que Dieu explique tout. Dieu peut te aider même à cuisiner. Puisqu'il connaît tout, c'est lui qui a créé le sel, qui a créé tout ça. Donc, nous, notre boulot, c'est de t'affermir sur la parole. Ce n'est pas après de t'expliquer, il faut faire ceci, cirer les chaussures. Non, ça, le Saint-Esprit peut le faire et les livres païens peuvent te l'expliquer. Nous, on veut que les gens s'attachent à la Bible et trouvent leur salut dans la Bible, leur solution dans la Bible. C'est très important. Les chrétiens créent des méthodes et des méthodes parce que finalement, ils ont perdu la foi dans la parole simple de Dieu. Nous devons retourner à la simplicité de la parole de Dieu. Tout est dans sa parole. Et la Bible est la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à convaincre les gens de force. Nous voulons que les chrétiens soient affermis, qu'ils sachent que la Bible est la parole de Dieu. C'est l'expression de Dieu. La volonté de Dieu, nous la connaissons dans la Bible. La solution pour notre bonheur terrestre et céleste, c'est dans la Bible. L'objectif de Dieu pour nous, c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Après, tout ce qu'on peut entendre comme prophétie doit être appuyé par la Bible. Si ce n'est pas appuyé par la Bible, on n'écoute même pas. Aujourd'hui, combien de soi-disant prophètes sont en train de nous dire, bon, c'est environ vers 2015, le retour de Jésus. Oui, on nous a dit, on ne connaît pas l'heure, mais on connaît quand, on peut connaître l'année. Ah, mais non, ce n'est pas non plus dit dans la Bible qu'on peut connaître l'année. On dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il y a tant d'hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont en train de dire, mais ça sera peut-être tel jour, tel autre jour. Et il y a beaucoup d'apprentis prophètes comme ça qui sévissent sur Internet. Et les chrétiens sont en train de se transmettre. Moi, quand on m'envoie quelque chose comme ça, on me dit, transmets encore, ça s'arrête chez moi, quoi. Dès que tu me demandes de transmettre, sache que ça va s'arrêter chez moi. Donc, c'est les autres qui vont transmettre. Je crois que le Saint-Esprit est capable de me pousser à transmettre quelque chose. Donc, si quelqu'un me donne comme un ordre de transmettre, pas un verset de la Bible, hein, mais de transmettre une prophétie, je dis non, je ne serai pas un support pour quelqu'un d'autre, je serai un support du Saint-Esprit. Donc s'il me touche pour transmettre quelque chose, je le transmets. Et les chrétiens se passent des prophéties à gauche, à droite, alors que la Bible est là, la Bible dit toutes ces choses. Je ne suis pas contre les prophéties, je dis tout simplement que nous devons savoir faire la part des choses. Nous devons nous accrocher à la Bible et les prophéties, quand elles sont bonnes, on dit bon, d'accord. Mais on est accroché à la Bible. Toutes nos solutions sont dans la Bible. Les gens qui entrent dans mon bureau en quête de méthodes nouvelles, ils sont toujours déçus. Je reviens toujours à un verset biblique. Maintenant, s'il dit que le pasteur n'est pas puissant, il n'a pas de prophétie, c'est son problème. Moi, j'ai beaucoup de prophéties et il y en a tellement beaucoup que je ne sais même pas les mémoriser. Et vous savez où je trouve ces prophéties? Mais c'est dans la Bible. Nul ne tiendra devant toi. Tout homme forgé contre toi est sans effet. Si tu crois, tu verras ma gloire. Ce sont les prophéties que j'ai. 1 Thessaloniciens 2:13. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous tous, nous avons ces prophéties-là. Alors utilisons ça, bien-aimés. Ne nous laissons pas distraire par les commerçants d'aujourd'hui qui ont négligé la Bible et qui veulent mettre en avant leur méthode à eux. D'ailleurs, je voyais une certaine prophétesse américaine en train d'expliquer aux femmes comment tenir leur mari. Une année après, elle-même, elle divorçait. Bien aimé, c'est rigolo, hein? Donc, elle expliquait par des méthodes humaines comment faire. Une année après, non seulement elle est divorcée, mais elle s'est fait vraiment tabasser comme il faut. Et ça a été reporté dans les télés par des païens qui montraient comment elle s'est fait taper par son mari pasteur et divorce par la suite. Alors que c'était la meilleure conseilleuse. Ça s'est terminé où? Il faut conseiller selon la Bible. Les vrais conseillers, c'est la Bible. N'écoutez pas les mauvaises conseillères qui vont vous dire notre grand-mère avait dit ceci, notre maman avait dit cela. C'est la Bible, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour chacun, bien-aimé. Tous ceux qui négligent la Bible finissent mal. Nous accrochons-nous à la Bible. Disons comme David, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous apprend à nous attacher à elle-même, Seigneur, et non pas au système des humains. Nous ne voulons pas nous attacher au monde, chrétienne. Parce que la Bible dit que ta parole est permanente et vivante. Elle n'a pas besoin de subir de mode. Elle est la même en tout temps et elle agit. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés encore aujourd'hui pour que l'on sache que ta parole est la vérité et qu'elle mérite d'être crue et suivie. Merci Seigneur de nous avoir aidés, Seigneur, à comprendre que les critiques apparemment scientifiques en réalité ont déjà trouvé leur réponse par des bien-aimés aussi scientifiques. Merci Seigneur de nous aider à nous attacher à ta parole comme David. Oh, nous nous souvenons des merveilles de ta parole. Lorsque le roi Josias a découvert ta parole, ça a révolutionné le pays, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous aider par ton Esprit Saint à être suffisamment humble pour accepter ta parole. Parce que les gens ne veulent pas de ta parole parce qu'elle est très, très simple. Tout le monde a accès à elle. Et cette simplicité est l'occasion de chute de beaucoup. Ils veulent entendre des paroles extraordinaires, des paroles qui amusent l'intellect. Oh Seigneur, merci Seigneur d'agir. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, pour que nous soyons attachés. Merci pour ta parole,
lumière donnée aux hommes.
C'est la vérité
qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans
parole.
Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans
en tes promesses, Seigneur.
Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher fondé sur sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire
Dieu soit béni.